Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour ce nouveau direct depuis nos studios dans le Périgord, dans Famille, justice, enfance. Famille, justice, enfance avec Stéphane, votre émission sur l'étude sociologique, psychologique, tout ce que vous voulez de la famille occidentale contemporaine. Aujourd'hui, on avait Gabriel Mallet, nous allons faire une émission sexologie. Voilà, ça commence très fort. Gabriel, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous appelez Gabriel, bon, vous voulez pas, tout va bien, voilà. Sexologie, pourquoi ? Parce que c'est un sujet qu'on n'a encore jamais envisagé dans notre émission et autres, qui a plein de questions par rapport au couple, par rapport à comment durer dans le couple, comment devenir une personne responsable, comment éduquer nos enfants. Il y a énormément de thématiques, mais d'abord, Gabriel Mallet, infirmière, mariée à un urologue, des conférences sur la planète. Mais qui est Gabriel Mallet ?
Ah, Gabriel Mallet, elle a mille vies et elle adore ça.
Hey.
Elle est de plus en plus épanouie dans ce qu'elle fait, donc c'est chouette.
D'accord. Alors, bon, j'ai résumé un peu le parcours. Hein. Donc, vous avez une véritable formation d'infirmière, donc l'école d'infirmière. Vous avez travaillé en cancérologie.
Oui.
Vous avez fait aussi du soin palliatif.
Oui, là-bas, oui.
Donc, vous avez réfléchi sur la vie. On va dire ça.
C'est la fin de vie.
Ouais, nous sommes poussière, nous repartirons poussière. À quoi bon tout ceci, etc. et autres. Vous avez un mari qui, lui, travaille, l'urologue, c'est effectivement l'appareil reproductif du côté médical, du point de vue médical.
Oui, il y a les reins également.
Oui, donc tout l'ensemble.
Ouais, tout l'ensemble urinaire
voilà.
Également. Ouais.
Et ensuite, vous êtes parti. Alors, ça vous a pris à quel âge les études de sexologie ?
Oh, c'est récent, puisqu'en fait, j'ai d'abord fait de la péripelvinéologie, donc tout ce qui est le petit bassin et tout ce qui est les problèmes sur l'incontinence urinaire, que je continue à faire à la clinique parce que j'aime bien.
D'accord.
Et quand je me suis formée là, c'est un an à Paris, je me suis rendu compte qu'en fait, les patients ne parlaient pas de sexologie en urologie. Je me suis dit, mais s'ils n'en parlent pas en urologie...
Ils en parleront quand ?
Ils en parlent où, en fait ?
Ouais,
il n'y a pas d'espace. Et je me suis dit, bah, tiens, je me suis intéressée sur les études de sexologie, donc c'est pas du tout une formation qui est réglementée. Donc, il y a un DIU en trois ans que j'ai fait à Toulouse avec des examens, un mémoire, une soutenance. Mais à côté de ça, si vous avez envie, Stéphane, de vous installer demain en tant que sexologue ou sexothérapeute, bah, vous pouvez parce qu'il n'y a rien qui vous l'interdit.
Pour l'instant, moi, c'est plutôt Jean-Marie Bigard. Hein. J'ai fait des blagues lourdes. Mais non, mais bon, sexologie, on va dire, ce n'est pas, c'est pas être acteur de films porno, c'est pas sortir des blagues idiotes. Mais justement, on va débunker un petit peu là. Qu'est-ce qu'on vous apprend en trois ans ? Parce que ça fait quand même un certain temps d'études.
Ouais.
C'est relativement sérieux. Alors, sexologue, qu'est-ce que c'est ? Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors déjà, cette DU, c'est un prérequis. Il faut avoir un métier de santé. Donc médecin, ça peut être sage-femme, kiné, infirmière ou psycho.
D'accord.
Et donc, c'est le prérequis. Et après, pendant trois ans, on va avoir...
Ce sont trois ans de spécialisation,
oui,
quelque part.
Oui, on va avoir de la physiologie, de l'anatomie. Donc ça, c'est des choses qui étaient pour moi qui étaient plus faciles, puisque moi, je l'avais déjà travaillé.
Oui.
Mais on va travailler sur le couple, sur la communication, sur la sexualité dans la société. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne se pose pas vraiment la question.
J'entends sociologie.
Sauf que... Voilà, on en parle peut-être en terminale pendant qu'on fait de la philo, et encore, ça reste très limité, et peut-être pas au bon âge, ça c'est mon avis. Mais effectivement, il y a un apport en tout cas sur la fac de Toulouse qui est très intéressante et très intégrative.
Oui, parce que je crois que sexologue, on peut aussi faire différentes formations.
Complètement.
Mais visiblement, celle-là est assez fouillée. Et il y a un point de vue théorique assez, assez important. On va préciser, mais bon, on aura fini l'origine de la voix, là, que vous êtes maman, vous avez trois enfants.
Bien sûr.
Qui sont en train de sortir de l'adolescence.
Ouais.
Vous êtes encore avec monsieur.
Oui.
Donc vous avez su durer, quelque part. Ça fait aussi partie de la thématique qu'on a,
effectivement.
Qu'on a ici. Ça fait combien de temps que vous pratiquez votre métier, là ?
De sexo ?
Oui.
Depuis 2023, donc c'est
D'accord.
récent.
Donc ça fait 2 à 3 ans, vous en parliez un petit peu auparavant et autres. Allez, on va se lancer, qui est-ce qui vient vous voir et pourquoi ?
C'est très varié, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des couples, j'ai des jeunes, j'ai des vieux.
D'accord.
Et j'ai des problématiques qui vont être psychologiques, organiques, mais... Euh, mais toujours dans l'intimité des gens. Et si c'est ça qui est
chirurgical,
passionnant.
C'est votre mari. Visiblement, quand on vient vous voir, c'est beaucoup plus psychologique,
oui,
non ?
Oui, mais justement, ça les arrangerait bien la plupart du temps que ça soit organique pour avoir quelque chose de beaucoup plus...
Une pilule magique.
Ouais, beaucoup plus binaire à pour réagir. Donc non, c'est très complémentaire. C'est ça qui est passionnant parce qu'effectivement, je vois que la psychologie a une part tellement importante et que la sexo, c'est ça qui est fabuleux par rapport à la médecine habituelle où on sectorise vraiment l'urologie, c'est les organes comme ça, après il y a la gastro. Là, la sexo, c'est la tête et le corps et c'est vraiment l'ensemble des deux.
Alors, on sait tous plus ou moins que c'est très psychologique chez les femmes. On l'entend régulièrement et moi en tant qu'homme, je le pressens. Mais visiblement, ça l'est aussi beaucoup chez l'homme.
Beaucoup chez l'homme, effectivement. Et il y a plein d'hommes
qui... Nous ne sommes pas que des grosses brutes qui montreront notre amour de manière physique. Il se passe plein de choses.
Oh, beaucoup de choses dans la tête qui fait qu'après, ça marche moins bien. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'une fois qu'on leur explique, qu'ils comprennent le processus et le pourquoi du comment... Eh ben, ça va mieux. Et moi, j'adore quand, au deuxième rendez-vous, ils viennent et me disent bah, « ça y est, ça va mieux, je suis content ».
Alors ça, ça veut dire que très rapidement, il y a des ballons qui sont percés, et il y a des seaux qui sont, des portes qui sont ouvertes.
C'est vraiment une thérapie brève,
Ah, donc les gens qui viennent vous voir, c'est pas du long terme, c'est relativement court.
Ouais, c'est souvent plutôt court,
Alors ça, ça veut dire qu'il y a des thèmes qui reviennent et qu'il y a des choses qui sont faciles à faire.
Clairement. Et alors, le plus facile...
Alors, quels sont les thèmes qui reviennent et quels sont les grands discours à dire ?
Ce sont les dysfonctions érectiles chez l'homme jeune. C'est vraiment chouette parce que généralement, ça rentre vite dans l'ordre, quoi.
D'accord. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup ici, aujourd'hui, en France, en Occident, 2025-2026... C'est difficile d'être un homme d'assumer sa position. C'est difficile d'être une femme d'assumer sa position. En fait, c'est difficile tout court. Alors, qu'est-ce que c'est les grands trucs qu'il faut dire aux gens pour que tout le monde se sente mieux là ?
Je trouve que c'est difficile et c'est vrai parce qu'en fait, on a cassé les modèles. Les modèles qu'on avait depuis des siècles, on les a cassés en disant « mais non, c'est pas ça qu'on veut, c'est plus ça qu'on veut ». Et c'est très bien. Sauf que, il va falloir peut-être une ou deux générations avant de savoir vers où aller. Et là, je pense qu'on est en pleine période de tâtonnement.
Alors Emmanuel Todd disait la famille, le modèle familial influe sur le modèle de société.
Complètement.
Donc effectivement, il y a cette base de repères. Et vous, en allant effectivement faire, on a parlé du Cambodge un peu en off auparavant, on voit que les modèles changent. Mais allez, disons que s'il fallait donner des grands messages aujourd'hui au micro aux gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie, ce serait lesquels ?
D'arrêter de se mettre la pression à cause de ce qu'ils peuvent voir dans la société et de tous les diktats qu'on nous donne, l'amour deux fois par semaine, l'obligation de réussite.
Ah, c'est pas beaucoup, ça. Non,
mais c'est toutes ces choses-là qui mettent la pression aux gens et qui se disent « mais je suis pas normale dans notre couple, on ne peut pas être heureux si on fait pas l'amour, mais on peut très bien être heureux si on fait pas l'amour, et on peut être très bien être heureux si on fait l'amour deux fois par jour. Ça dépend si ça va à tout le monde, en fait. »
Oui. Oui, d'accord, ok, donc ça j'entends, ok. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous répétez régulièrement aussi en consultation ?
En fait, je m'aperçois que les gens ne sont pas écoutés. Les gens, en fait, ont peu d'espace d'écoute. On est devenu de plus en plus individualiste et on n'a plus guère d'épaule sur laquelle pleurer. Ou en tout cas, même si on ne pleure pas, quelqu'un à qui on peut parler et qui sache écouter.
Il y a un manque de chaleur, une sensation de solitude ?
Je pense.
D'accord.
On n'a jamais été autant connectés, mais je crois qu'on n'a jamais été aussi seul.
Ça, c'est fort possible. Bon, Samsung travaille sur des projets qui vont peut-être résoudre certaines choses, mais ça ne résoudra pas tout.
Non.
Ok. Donc on vous apprend quoi ? La partie psychologique. Alors, un couple, on entend souvent, on va débunker certains mythes comme ça et autres, on entend souvent l'amour, la passion, ça s'étiole avec le temps, et de toute façon, vous verrez, mes enfants, dans 3-4 ans... Ce sera chacun de son côté et tout. C'est vrai ?
Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie lune de miel. J'explique d'ailleurs aux gens, effectivement, on dit toujours aussi l'amour rend con, l'amour rend bête et l'amour rend aveugle. En fait, effectivement, c'est expliqué au niveau neuronal, c'est qu'en fait, pendant ces deux premières années, il y a deux, trois, parce qu'il y avait aussi ce fameux livre sur l'amour dure 3 ans, mais c'est vraiment ça. Tout au début de la relation, il y a une vraie imprégnation d'endorphine qui finalement met un écran sur les défauts de l'autre et nous fait voir seulement ce qu'on a envie de voir, en fait, et qui embellit le tableau. Et qui, effectivement, quand ça s'estompe, finalement, ce qu'on trouvait très mignon, très craquant au départ, devient vite insupportable. Et c'est là où l'attachement va changer. Mais ça ne veut pas dire quand on bascule dans l'attachement qu'il ne peut plus y avoir de passion. Et c'est ça que c'est important. Je dis toujours à mes patients, ça se travaille. Attendez pas que ça se fasse tout seul. On est ensemble, on est heureux, ça va durer toute la vie. Si vous n'y prenez pas garde, ça ne durera pas toute la vie, en fait.
Mais non, parce qu'on va, simplifier. Il y a la promotion du début. La période de la lune de miel, ça se passe bien, tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, les chaussettes qui traînent, la chasse non tirée et tout, ça commence à peser un peu. Et en fait, là, très souvent, ce sont les conventions sociales qui nous aident à rester ensemble.
Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais on n'est pas ensemble. Et puis il y a la sécurité, il y a le confort. C'est terrible, mais c'est vrai. Moi, j'ai un patient qui me disait, mais en fait, je crois qu'il faut que je me sépare, mais on a acheté un chien, comment on va faire? Et voyez, non mais c'est des petites choses qui vont peser dans la balance, effectivement.
Bien sûr. Quand j'étais en Asie, les gens nous disaient, il faut rester ensemble, faire des efforts. Là-bas, on ne divorce pas. Donc la société, l'environnement familial, culturel, vient vous aider à trouver des solutions. Quand on est arrivé en Europe, au premier clash qu'on a eu, tout le monde est venu nous dire, il faut se séparer, on ne reste pas ensemble. Donc l'environnement joue beaucoup. Les repères locaux vont énormément influer.
Mais je trouve que c'est d'autant plus beau que de repartir avec le même joueur en distribuant juste de nouvelles cartes, en fait.
Il faut savoir durer, sans faire de mauvais jeu de mots, là, dans la continuité, durant les années, durer. Comment on fait pour durer, pour se retrouver, pour être comme nos grands-parents amoureux durant 40 ans?
Alors, je ne suis pas sûre que nos grands-parents étaient amoureux pendant les 40 ans. Je pense qu'ils ne se posaient pas la question de pouvoir ne plus l'être, en fait. Je pense qu'il y avait une partie de ça.
Ma grand-mère, elle a perdu mon grand-père, il est parti avant elle. C'était le drame de sa vie. Et franchement, elle a aimé mon grand-père durant longtemps.
Et tant mieux, c'est beau.
C'était beau, ça.
C'est une histoire d'amour, effectivement.
Ah ouais.
Et moi, j'y crois. Parce
comment
que
on fait?
Je suis en plein dedans, j'ai envie de dire.
Vous n'avez pas 3 ans que ça a duré un certain temps. Alors, on est à 20, 25, d'après, visiblement.
20 ans de mariage cette année.
C'est joli.
Ouais.
Alors, comment on fait? Surtout aujourd'hui où tout le monde divorce, là, comment on fait en Occident?
Je pense qu'il faut avoir la chance de pouvoir se mettre en première page de sa to-do list et de se dire d'être disponible pour l'autre. Et le problème, c'est que maintenant, on doit tous travailler, subvenir à ses besoins. Et notamment, je parle de la charge mentale des femmes parce qu'elle est toujours très importante. Elle doit travailler, être indépendante, faire manger bio.
On fait le ménage maintenant, on fait des efforts.
Oui, c'est vrai. faire manger bio, être là. Est disponible, être une femme fatale quand il le faut, être une bonne mère quand il le faut, et être disponible pour la sortie de l'école à la piscine. Et en fait, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et moi, je le dis toujours à mes patients, mettez-nous au Club Med pendant 15 jours, on aura tous une libido à 12 000 avec un imaginaire érotique très important. Mais entre le chien dégobillé sur le tapis et c'est l'heure de sortir les poubelles, c'est compliqué de se retrouver forcément dans le tumulte de la journée. Et c'est
ça
qu'il faut
nous
faire.
Aussi, on peut l'avoir.
Mais complètement.
Nous aussi, on peut l'avoir. Il faut assurer.
Oui.
On a cette image où on doit être un roc dans le jardin avec des émotions et parfois après le boulot le soir on a envie d'aller dormir, on culpabilise. Donc en fait la charge mentale dans le couple elle est partagée
et là où il y avait une différence avant, quand je parle bien d'avant où l'homme travaillait et la femme était à la maison, je dis pas qu'elle était là à rien faire, à se faire les ongles, loin de l'idée.
On va dire post-révolution industrielle.
Mais clairement elle pouvait du coup être plus disponible pour une certaine classe de la population, je l'entends bien. Là maintenant les deux courent partout pour une réussite professionnelle, deux courent partout pour une réussite de nos enfants, parce que là aussi, ce n'était pas le cas dans les années 80, ils se posaient beaucoup moins la question de savoir si on allait être majeur de promo ou pas. Là, maintenant, c'est devenu une course à la réussite sur nos enfants aussi. Il faut qu'ils aient tout fait, qu'il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils soient heureux, et ça nous met une pression. Et tant mieux qu'on fasse attention à eux, j'ai envie de dire.
Quand on va les rassurer, le niveau n'est plus le même, hein, mais bon.
C'est pas faux. Mais effectivement, je pense que les deux ont la tête dans le guidon.
On aura bientôt la carte SIM implémentée dans la tempe.
On n'est pas disponible. Et on ne peut. C'est sur la voie verte de Périgueux qui a. Je crois que c'est une phrase de Colette qui écrit: il faudrait rencontrer les gens que disponibles. Mais c'est vrai, je pense que c'est effectivement ça. C'est quand on est disponible à l'autre qu'on est capable d'écoute, qu'on est capable de communication. Et si les deux ne sont pas disponibles, c'est difficile de se retrouver et encore plus au niveau charnel.
Alors, une psychologue m'a dit, plusieurs psychologues m'ont dit, ici, à ce même micro que vous, qu'il fallait se faire au moins une fois par semaine, maximum une fois par mois, un repas ou un moment à nous, à soi, du couple.
Ah bah oui, ça, moi, je suis intimement convaincue. Mais c'est même pas le repas, ça peut être un café au coin de la mare dans le jardin, ça peut être, mais c'est des moments qualitatif qui s'enrichisse.
Il faut savoir garder le lien.
Et c'est important.
Voilà, parce pour aider la mauvaise eau à partir, pour que la bonne eau soit toujours présente.
Oui, parce qu'on ne peut pas n'être que des parents. Parce que sexuellement, c'est pas excitant d'être parent.
Ben non. Donc, d'ailleurs, le papa, qu'il soit parent ou pas, il est toujours papa, lui. Hein. Il est toujours homme, il n'a pas bougé, lui. Hein.
Donc, il faut pouvoir se trouver des moments...
Il y a des changements physiologiques ou du cerveau qui, quand on a la parentalité. Mais ça ne fait rien. Pour que le couple dure, ce n'est pas que de la parentalité, c'est aussi du couple. C'est important. Qu'après, les enfants s'en vont. Et normalement.
Et se retrouver, c'est pas facile pour certains.
Et oui, mais on est amené, visiblement, à terminer les deux ensemble. Donc il faut savoir construire cet espace commun.
Et le projeter.
Et le projeter.
Et en rêver.
Et en rêver, et oui, et en avoir envie.
Mm.
D'accord, ok.
C'est important, mon mari est ce genre.
Alors comment on fait ? On se déguise, on met un porte-jartel, on sort les bougies, là, comment on fait ?
Non, je pense qu'il faut, se trouver du temps à deux, du temps qualitatif, parce que des fois, j'ai des patients, ils passent du temps à deux à scroller sur le téléphone, sur le canapé.
Mais c'est pas à deux, ça.
J'ai dit, mais oui, mais là, c'est pas qualitatif, c'est pas mais possible. Non. Il faut de la proximité pour pouvoir... Moi, je parle toujours de l'escalier de la sexualité épanouie, et la proximité, c'est la première marche. Donc si les gens ne se croisent pas et ne se parlent pas de la journée, bah, ça va être compliqué d'avoir envie de se retrouver charnellement. Ça va être très compliqué, d'autant que la femme, pour le coup, et je dis toujours, la femme, elle est un peu, c'est la spirale anti-moustique. Déjà, j'ai des images un peu tordues, mais c'est-à-dire que nous, il nous faut un contexte. Il nous faut une charge mentale pas trop élevée, pas trop de stress, que les enfants aillent bien, qu'au boulot, ça aille bien, qu'on soit pas engueulé deux heures avant, mais ni deux jours avant parce qu'on n'aura pas oublié, qu'il y ait eu des petits regards, des mots gentils, peut-être des bisous dans le cou pour qu'on ait envie d'y aller. Donc, c'est pas en deux minutes.
Qu'on se sente désiré, qu'on se sente exister quelque
part. C'est ça. Donc, c'est pas en deux minutes après le film Netflix à 23h qu'on va être
Ce serait trop pauvre en plus, ça n'aurait aucun intérêt.
Donc c'est tout le problème.
Oui.
Parce que du coup, le temps passé ensemble est aussi limité.
En fait, on dit le sexe est le ciment du couple. Mais qui dit ça, dit tout ce qu'il y a autour, la manière d'y arriver et tout ce que ça signifie.
Moi j'aime bien dire que les préliminaires, ils commencent une semaine avant.
Oui. On va laisser ça s'imprégner un peu là. Et puis on va développer un petit peu aussi. Mmh.
Ben, c'est ce qui est important, c'est je pense que la femme a besoin d'être reconnue, d'être entendue en tant que femme, pas que en tant que mère, pour pouvoir, parce qu'elle a ce biais en plus qui fait que, mais qui existe aussi chez l'homme, c'est-à-dire que une fois que sa femme devient mère, qu'en est-il de la sexualité ? Parce que là aussi, c'est un problème qu'on va avoir chez les jeunes aujourd'hui, d'une sexualité qui aura commencé par la pornographie et qui va du coup donner des scripts complètement différents.
Ça, c'est un problème récent. Ouais. C'est à partir de la génération
vraiment.
Y, ça, on va dire. C'est
et j'ai vu des consultations qui sont liées vraiment à ça.
D'accord. Alors, on va passer de comment réussir à durer, comment... Donc là, on a dit, effectivement, c'est par le jeu aussi, peut être un moyen de durer et autres, etc. Après, on va aller sur les... Bon, oui, comme vous l'avez dit, quoi, les dysfonctionnements, les pièges et ce genre de choses. Mmh. Alors là, on va enfoncer une porte ouverte, mais je vous ai entendu le dire auparavant, vous allez le redire aujourd'hui. La pornographie comme apprentissage de la sexualité, c'est dramatique.
C'est dramatique, c'est délétère. Et c'est délétère parce que ça va engendrer des dysfonctions sexuelles, ça va engendrer des...
Un comportemental tout court d'ailleurs.
Oui, et ça va engendrer des incohérences dans le couple avec des scissions à un moment donné parce que la femme ne se reconnaît pas, parce que l'homme du coup n'est pas libre d'inventer autre chose, parce qu'il a grandi là-dedans, parce qu'il commence à 12-13 ans en fait. 50% des gamins de 12-13 ans ont déjà vu des films pornographiques. Enfin, c'est même plus
alors
des films,
nous,
c'est des séquences.
On découvrait des choses avec des personnes de notre âge, il y avait un énorme imaginaire, il y avait une espèce de pudeur, il y avait une espèce de respect mutuel, et puis en fait, les comportements évoluaient l'un avec l'autre, en commun.
Ouais, et là le problème c'est que c'est le porno devient un tuto, et ils vont reproduire des scripts qu'ils ont vus, des suites d'opposition, des suites d'attitudes,
on ne se donne plus par amour.
D'expression verbale,
voilà,
d'ailleurs.
Mais c'est ça, on ne se dévoile plus, on ne se donne plus par amour, on reproduit des images d'épinal.
On reproduit qui, du coup, ne nous correspondent pas forcément, mais on pense que c'est ça la norme. Et du coup, ils s'ennuient dans leur sexualité. Ils s'ennuient, ou en tout cas, ça ne leur correspond pas, parce qu'à un moment donné, ça coince. Et moi, les gens arrivent, c'est des jeunes, ils ont 20 ans, et ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sont ensemble, et puis là, il y a un décalage qui se fait parce que ben y en a un qui dit mais en fait non, moi c'est ça en fait.
Et je veux être un marteau piqueur.
mais effectivement, physiologiquement, c'est déjà même des fois quand je leur explique, je dis mais en fait la fille écrit pendant 2 heures, mais dans la vraie vie c'est pas possible. Physiquement c'est pas possible.
Ouais.
Vous croyez pas que Superman il passe pour de vrai d'un immeuble à un autre, ben là c'est pareil. Et là où la pornographie n'est pas fustigée, si on se le regarde alors qu'on a déjà eu des expériences et que de temps en temps on se fait ça pour aller pour s'exciter, pourquoi pas, mais que des jeunes comme ça qui n'ont jamais connu une sexualité propre soient imprégnés par la pornographie, c'est comme un gamin de 4 ans qui regarde Harry Potter, il va flipper de se faire manger par les détracteurs, il n'aura pas cette nuance, il n'aura pas cette comparaison avec la vérité en fait.
Non, puis ce qui ne devrait être qu'une partie du jeu en fait devient central et c'est embêtant.
Et du coup ils s'oublient dans leur propre corps et dans leur propre connexion à leur corps et à l'autre.
Eh ben, on va aller dans le côté dark, là, c'est bon. Allez, c'est parti. Est-ce que cette évolution, en fait, de l'éducation sexuelle, de tout montrer aux enfants très tôt et autres, est-ce que ça peut expliquer qu'il y ait plus de problèmes de violence intrafamiliale, d'agression, de perversion aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans? Est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas il y a 30 ou 40 ans? Ou est-ce que vraiment ces nouvelles choses ont une influence sur les comportements des jeunes générations?
Alors, je pense que ça a toujours été, mais que c'était pas dit, c'était encore plus dans le secret. Et même maintenant, où il y a des associations, il y a des numéros, il y a des centres pour lutter, il y a la CIVIS, hein, qui est le comité indépendant de lutte contre l'inceste et les violences faites aux enfants. Ça, c'est des choses qui existent et qui sont connues, qui ont pignon sur rue, mais les derniers chiffres sont aberrants, c'est-à-dire que 1% des gens condamnés, des gens qui ont été traités pour des violences sexuelles sont condamnés, 1%. C'est ridicule et c'est non, beaucoup
on a,
moins.
On a, alors là, je vais débunker, on a un problème de justice. Ouais. On a des gens qui se font accuser de manière malsaine, qui perdent leurs enfants, alors que c'est calomnieux. Il y a des enfants qui, visiblement, ont eu des trucs, mais bon, quand on regarde les rapports, les certificats médicaux, il s'est passé quelque chose et il ne se passe rien. Ouais. Mais c'est pareil si on vole votre voiture, c'est pareil si on vous agresse dans un parking demain, c'est pareil si vous avez un procès de voisinage, on a un problème de justice de manière générale. C'est le boxon et ça ne marche pas, malheureusement, pour nos enfants, mais ça ne marche pas aussi de très très gros domaines.
Hein. Au tribunal du commerce, c'est le bazar. J'ai envie de dire que les conséquences psychologiques, si ma voiture n'est pas retrouvée, c'est moins grave.
On est d'accord. Là, ça rentre, si vous voulez, le dysfonctionnement sociétal rentre au niveau de notre chair, au niveau de nos enfants. Et là, c'est beaucoup on se rend compte qu'il y a un problème parce que ça touche nos gosses. Oui. Et je vous assure, le problème, ce n'est pas qu'on ne s'occupe pas de nos gosses. Le problème, c'est qu'on a un problème beaucoup, beaucoup plus systémique que nos enfants. Hein.
Mais il y a un problème également de non-connaissance des psychotraumas parce que quand on sait qu'un enfant, une petite fille agressée aura 16 fois plus de risques d'être agressée dans sa vie future parce qu'elle sera victime. Et un petit garçon agressé aura 14 fois plus de risques de devenir agresseur par le process du psychotrauma. Et ça, c'est vraiment... ça fait des agresseurs à tout va dans la société, en fait. Puisque si on ne l'arrête pas, ça va être exponentiel à chaque fois. Et ça, c'est Muriel Salmona qui en parle très bien dans son livre sur comment enrayer les agresseurs sexuels et la fabrique des agresseurs sexuels, où elle pointe du doigt ce que vous venez de faire, c'est que la société, par les non-dits, par le fait que ça ne soit pas une priorité, ne protège pas nos enfants.
Non, ce sont les personnes débutantes qui vont gérer les problèmes familiaux, etc., etc., etc.
Et qu'on n'est pas formé. Moi, j'ai fait 3 ans de sexo, donc 3 ans de DIU. Je n'ai pas appris sur les psychotraumas.
Quels sont les mécanismes? Ah, d'accord. Donc, j'allais vous demander quels sont les mécanismes qui font qu'on va agresser les enfants, les nôtres ou ceux des autres. Comment on devient ça? On vous l'apprend, vous, en tant que sexo? Ou on sort de votre périphérie d'intervention là?
Clairement, je ne l'ai pas appris. On a abordé, évidemment, les violences sexuelles pendant mon DU de sexo, mais on n'a pas du tout approfondi les choses. Moi, là, je suis repartie sur 4 ans de thérapie systémique. Hein, donc, là, vraiment, je fais de la psychothérapie. D'accord. C'est ce qui me manquait, puisqu'en tant qu'infirmière, j'étais vraiment dans la physio.
Mais oui. Et puis il y a des gens qui vont vous demander, qui vont venir vous voir, qui vont vous dire comment je me remets.
Oui.
Donc c'est une demande que vous devez avoir.
J'en ai 3-4 par semaine, hein, des problèmes de violence sexuelle, notamment d'inceste.
D'accord.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans être formée là-dessus. Donc là, je me forme vraiment dans la thérapie du psychotrauma pour pouvoir accueillir et écouter ces gens. Parce qu'en plus, quand on a cette connaissance et qu'on peut la transmettre et faire de la psychopédagogie, on s'aperçoit que ça les allège, ça leur permet d'évoluer et de ne pas rester coincés dans un process qui leur pourrit le reste de leur vie, en fait.
Bien sûr.
Parce que quand on est victime d'inceste, on est puni toute sa vie. Ça ne s'arrête pas, même si la personne est condamnée, ce qui est quand même très rare en plus, mais on est puni toute sa vie.
D'accord. Donc vous avez, vous, 2 à 3 personnes par semaine qui viennent se plaindre de ça.
Oui, et vous D'accord. savez qu'il y a, il y a nos classes de 30, là, de nos enfants, il y en a 3 faciles par classe.
Oui, on en parlait, carte zéro et ce genre de choses. Oui, après c'est très très difficile pour ceux qui se font accuser à tort.
Bien sûr.
Et alors là, eux, ils morflent comme des sauvages, ça pose d'autres problèmes. Je suis un enfant, j'ai été violenté, je voudrais avoir une sexualité normale, je viens vous voir, vous lui dites quoi ?
Alors, moi, je ne les ai pas au stade d'enfant. Moi, j'ai des stades
une fois qu'ils sont adultes.
D'adultes qui, des fois, m'ont dit, bah, ils ont 44 ans, je suis la première personne à qui ils ont parlé, à qui ils parlent du fait que leur grand-père, pendant des années,
les a agressé. Des fois, il faut attendre très longtemps pour se rendre compte qu'on a été une victime,
oui,
parce qu'on réalise pas.
Il y a l'amnésie traumatique.
Et puis, tout simplement, le fait qu'on est habitué à vivre comme ça, et on ne se rend pas forcément compte qu'on a subi quelque chose.
Et c'est pour ça qu'il y a des familles qu'on dit incestuelles, c'est-à-dire que c'est des familles où les frontières ne sont tellement peu marquées qu'elles vont autoriser sans autoriser, voyez, et donc en fait elles vont pas interdire, c'est surtout ça. Et on a, en fait, moi je fais travailler en faisant des génogrammes avec les patients et on voit que finalement ce problème d'inceste ou en tout cas de violence sexuelle, elle est sur la génération de la maman, mais elle est sur la tante et elle est sur l'arrière-grand-mère et qu'en fait il y a une famille comme ça où en fait les frontières n'étaient pas posées.
Vous allez sur la psychogénéalogie,
ouais,
quelque part.
C'est hyper intéressant.
Karine Segar, le livre de clé de la psychogénéalogie, effectivement certains schémas se répètent de génération en génération.
Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la physiologie, c'est-à-dire qu'il y a, il y a de la transmission aussi, il y a des peurs qui sont transmises par, même par le non-verbal des mamans, souvent, où j'ai des patientes qui me disent « je ne sais pas pourquoi, j'ai peur des hommes, j'ai peur de la sexualité, et pourtant alors, il ne m'est jamais rien arrivé ».
On va se dire qu'on a un discours relativement affolant depuis quelques années, via les médias, de manière générale, très culpabilisant, et on peut comprendre que certaines femmes aient du mal. D'ailleurs, on les repère assez facilement, hein. Elles ont fait des études longues et elles ont peur des hommes et il y a des femmes qui ont du mal à passer le cap parce qu'elles ont été très paniquées par un discours ambiant.
Mais ça, après c'est les histoires de chacun, mais effectivement j'ai des femmes qui disent mais j'ai besoin de comprendre pourquoi ça m'arrive et pourquoi je le vis pas d'une manière légère en fait, alors qu'en fait elles ont elles jamais vécu quelque chose.
Et comment on fait pour se décoincer, pour passer le cap, pour oser se livrer à l'autre lorsqu'on a un environnement très culpabilisant comme ça, avec plein de discours qui disent fais attention, il faut bien y aller, comment on fait ?
Ben c'est déjà de pouvoir voir autre chose, de pouvoir comparer, de pouvoir se rendre compte que nous on fait du recadrage en psychothérapie comme ça, quand on se dit mais tous les hommes sont mauvais. Non, vous connaissez forcément des hommes qui ne le sont pas. Donc déjà, ça va permettre d'enlever des fausses croyances aussi qui sont souvent ancrées. Mais c'est un travail de longue haleine et je suis assez agréablement surpris parce que souvent, les personnes ont entre 40 et 50 ans, mais j'ai de plus en plus de jeunes qui se posent la question et qui, du coup, vont pouvoir avoir une vie meilleure plus longtemps.
Bien sûr. Et comment on fait pour rester un homme lorsqu'on entend tout ça, en se disant « mon Dieu ».
Ça doit être très compliqué.
Ah, vous voyez, il y a les deux.
Ouais, vraiment.
Être un homme, c'est pas facile. Être une femme, c'est
draguer
pas facile.
Draguer en 2026, quand on est jeune,
on ne drague plus, madame. C'est
compliqué.
Fini. On ne drague plus parce que c'est dangereux. Bon, en attendant, on va aller voir madame Gabrielle Mallet, qu'on trouve assez facilement à Périgueux.
Oui.
Et puis, bon, on a fait un peu des sujets un peu lourds à la fin, mais on a fait des sujets légers au début. Et en fait, quand on vous écoute, il y a plein de vie dans votre discours. Et c'est peut-être aussi ça la solution pour se retrouver dans un couple, c'est de mettre de la vie.
Clairement. Et voilà. De toujours croire que ça va être mieux après.
Bon. À tout le monde, à la semaine prochaine, madame. À bientôt, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.